Bonjour à tous, merci d'être avec nous pour ce premier épisode du Foodcast News. Aujourd'hui, nous allons aborder le sujet du plastique en grande distribution, puisque les décrets de loi poussent en ce moment comme des champignons pour nous l'interdire définitivement. Alors, quel est l'impact pour les producteurs de fruits et légumes? C'est ce que nous allons voir aujourd'hui avec l'intervention de Marc Denal, directeur général de l'association Demain la Terre, et Emmanuelle Rose, cofondatrice de la champignonnière Loup Légumes en Bretagne. Alors Marc, avant de vous laisser la parole, je me permets de faire un petit récap pour nos auditeurs sur cette fameuse loi AGEC pour les intimes, qui est la loi anti-gaspillage pour une économie circulaire, mise en place par le ministère de la Transition écologique. L'un de leurs objectifs l'est clairement visé, en finir avec le plastique à usage unique d'ici 2040. Alors sur le papier, c'est top, mais pour y parvenir, différents décrets vont être votés, contraignant et impactant sérieusement la filière, et notamment celle des fruits et légumes, celle qui nous intéresse aujourd'hui. Bonjour Marc, pouvez-vous nous présenter brièvement l'association dont vous êtes le directeur général, Demain la Terre ?
Oui, bien sûr. Alors Demain la Terre, c'est une association loi 1901 qui a été créée il y a bientôt 17 ans par des producteurs de produits végétaux. Alors ce qu'on appelle produits végétaux classiquement, c'est des fruits et légumes, hein, mais on l'inclut au sens large puisqu'on peut y inclure les herbes aromatiques, on peut y inclure des légumes secs, etc. Donc l'association a été créée par des producteurs qui avaient et qui ont toujours pour objectif de donner un cadre et promouvoir le développement durable dans la filière. Donc, quand l'association a été créée, c'était plutôt sous la forme d'un club d'échange. Depuis, ça s'est concrétisé par la création d'un label qui porte le même nom, Demain la Terre, qui a fêté ses 10 ans l'an dernier et qui repose sur un référentiel d'exigence avec des obligations et de moyens et de résultats qui sont contrôlés annuellement par un organisme indépendant et auxquels sont soumises les entreprises adhérentes. Donc l'association aujourd'hui elle compte 25 entreprises adhérentes, ce qui représente un peu plus de 400 producteurs qui sont répartis sur tout le territoire national et en dehors de nos frontières également, ça commence. Voilà, donc toutes les entreprises qui sont adhérentes sont soumises au même référentiel avec les mêmes contrôles et le même niveau d'exigence.
Pouvez-vous nous parler des obligations que la loi AGEC, que nous introduisions tout à l'heure, soulève auprès des producteurs de fruits et légumes, justement ?
Alors, le cadre général indique que à partir du 1er janvier 2022, tout conditionnement de fruits et légumes de moins d'un kilo 5 devra être exempt de plastique, totalement exempt de plastique. Alors après, dans le décret d'application qui est en train d'être finalisé, il y a un calendrier qui est fixé, produit par produit, catégorie de produit par catégorie de produit, ce qui doit permettre de pouvoir étaler un petit peu dans le temps les obligations, puis laisser aux filières le temps de trouver les solutions quand elles existent pour pouvoir les mettre en œuvre.
Et comment réagissent les producteurs, notamment les producteurs affiliés à Demain la Terre ? Quelles sont les difficultés qu'ils rencontrent éventuellement face à ces obligations ?
Alors, comment ils réagissent ? Si vous voulez, de manière générale, il y a un côté un peu dubitatif par rapport à cette loi. Pas tant sur le fond, parce que, alors d'une part, la question des emballages fait partie des critères du référentiel Demain la Terre dont je vous parlais tout à l'heure. Ça fait des années que la question des emballages, réduction des emballages, substitution par des matériaux plus durables, réduction du poids des emballages, etc. Enfin, toutes ces réflexions-là, dans la démarche, ça fait des années qu'on l'a intégré. Là où on est plus sceptique, c'est sur le calendrier qui a été établi, puisque, donc pour refaire un peu l'histoire, la loi a été votée fin janvier 2020 à l'Assemblée nationale et validée le 10 février 2020 au niveau du Sénat. Donc au niveau parlementaire, en fait, ça a été validé tout début 2020 pour une entrée en vigueur au 1er janvier 2022. Donc c'est-à-dire que ça a laissé à peine moins de 2 ans pour se mettre en conformité par rapport à cette exigence-là. Sauf que le fait de se mettre en conformité, ça nécessitait... Alors autant pour certains produits, on en reparlera certainement tout à l'heure, il n'y avait pas spécialement de grosses difficultés, il y avait toujours des problématiques liées à de l'investissement dans des nouvelles machines, etc. Mais il y a aussi des produits pour lesquels malheureusement les solutions n'existent pas encore, ou en tout cas pas à une échelle suffisamment aboutie, pas à l'échelle industrielle, pour pouvoir déployer ça à grande échelle sur l'ensemble de notre consommation de fruits et légumes en France.
Et vous me dites que pour certaines catégories de fruits et légumes, ça va être très compliqué à mettre en œuvre. Est-ce que vous pourriez nous en dire plus?
Alors, des exemples concrets, oui, on en a plein. On peut vous citer le cas des endives, des champignons, des carottes qui sont lavées, des fruits rouges, etc. Ce sont autant de produits dont la fragilité font que ce sont des produits qui rendent beaucoup d'eau et qui font que c'est difficile de les commercialiser dans des conditionnements qui ne protègent pas le produit. S'ils sont commercialisés en vrac, ils sont touchés. À partir du moment où ils sont touchés, ça devient des produits qui ne peuvent plus être commercialisés ou plus difficilement commercialisés et surtout qui vont tout de suite s'abîmer. Et donc, on tombe aussi dans une logique de gaspillage alimentaire qu'il faut que nous, dans notre démarche, on a aussi cherché à intégrer. Donc, voilà, c'est une équation qui est complexe à trouver. Et ça, c'est des exemples de notre vie de tous les jours, parce que c'est des produits qu'on consomme, je dirais, tous les jours ou presque. Après, il y a la question de la saisonnalité, mais en fait, c'est des produits qui sont très communs au quotidien.
Oui, donc concrètement, on pourrait proposer ces produits-là en vrac, mais on en jetterait une grande partie, parce
Oui.
qu'ils seraient abîmés par le contact, par l'air.
Absolument, ils seraient abîmés. Déjà, le transport les abîmerait en partie, et en plus, effectivement, une fois sur les étals, seraient touchés, seraient à l'air, l'humidité naturelle qu'ils contiennent s'évaporerait direct, donc il y aurait un assèchement plus rapide. Enfin voilà, il y a beaucoup de paramètres à prendre en compte, pas juste une question de plastique parce qu'il y a un emballage plastique, mais à un moment donné, il faut aussi avoir en tête que l'emballage plastique, il a une fonction, c'est pas juste pour faire joli ou pour y mettre des logos et des messages, mais c'est vraiment parce que ça a une fonction de
Ça protège.
protection du produit. Ouais,
Ouais.
tout à fait.
Et puis d'autant qu'on sait qu'en grande distribution, si les légumes arrivent et qu'ils ne répondent pas au cahier des charges du distributeur, ça va être refusé, donc une perte pour le producteur, que ce soit en poids ou en termes de visuel, de beauté du fruit et légumes.
C'est ça, c'est ça. Donc, vous voyez, l'équation très complexe à résoudre.
J'imagine que les conséquences économiques et logistiques pour les producteurs sont aussi assez conséquentes.
Et c'est ça, c'est-à-dire que si il faut substituer des emballages, mais que ces emballages coûtent 3, 4, 5, 6, 10 fois plus cher que les précédents, qui va absorber ce coût-là? Est-ce que c'est le producteur? Est-ce que c'est le distributeur? Ou est-ce que c'est le consommateur? Bon voilà, aujourd'hui, personne n'a la réponse à cette équation compliquée. Donc il faut quand même qu'on trouve des alternatives qui soient crédibles à la fois du point de vue technique, c'est-à-dire solidité, résistance, alimentarité aussi. Il faut quand même des emballages qui soient aptes à toucher un produit qu'après on va consommer directement, mais aussi qui soient économiquement acceptables pour les différentes parties prenantes qui interviennent dans la production, la commercialisation et l'achat des fruits et légumes.
Et donc concrètement, quel est le message aujourd'hui que vous souhaiteriez faire passer auprès de ces élus qui votent ces lois, ces décrets?
Alors, au niveau des messages, il y a une logique de réalité technico-économique qui aujourd'hui semble être peu ou pas prise en compte. Et je pense qu'il devrait y avoir un peu plus d'écoute de la part des professionnels, parce que voilà, chaque filière a ses problématiques. Il y a des produits qui ne posent pas de problème à être transportés dans des emballages qui ne sont pas en plastique. Il y en a d'autres pour lesquels aujourd'hui on n'a pas d'alternative qui existe, ou en tout cas pas d'alternative suffisamment crédible.
Mais est-ce que le temps permettra de résoudre ce problème ou pas, en fait? Est-ce qu'il y a une solution à trouver, ou est-ce que vous pensez que pour certaines catégories, il n'y a pas de solution pour se passer du plastique?
Alors, après, je peux aussi vous faire une réponse purement scientifique, qui n'est ni politique, ni technique, ni économique. C'est qu'en fait, on a fait des analyses de cycle de vie. Donc, ce qu'on appelle analyse de cycle de vie, c'est la mesure des impacts environnementaux d'un produit, de sa conception, fabrication, jusque à sa fin de vie, c'est-à-dire au moment où ça va devenir un déchet ultime. Et donc, dans ces analyses de cycle de vie, on a étudié, alors on en a fait sur des fruits et légumes, nos produits, et donc on a tout pris en compte, hein, de la parcelle, le semis, le jeune plant, la production, la récolte, le transport, le conditionnement, l'expédition chez le client, l'emballage jeté, etc., etc. Et en fait, ce qu'on s'est rendu compte, c'est que y a pas, c'est pas si évident que ça, c'est pas systématique qu'un emballage plastique est toujours plus mauvais du point de vue environnemental que d'autres types d'emballages. Et deuxième point, peut-être qu'avant d'arriver à une solution extrême dans certains cas, comme ça peut être le cas ici, il y a un intermédiaire qui est très peu mis en œuvre en France, ou en tout cas pas assez, c'est la logique de recyclage. Un plastique, il y a certaines catégories de plastique qui sont recyclables à l'infini, et aujourd'hui on n'a pas ou très peu les filières de recyclage correctement structurées en France. Donc est-ce que, avant de s'amuser à dire on supprime tout plastique, est-ce qu'il n'y aurait pas une logique de dire la part de plastique qui est recyclable à l'infini, est-ce qu'on ne pourrait pas la réutiliser encore et encore et encore, et ça pourrait être une part de plastique pour des produits les plus fragiles et les plus difficiles à gérer du point de vue humidité, transport, etc. Est-ce qu'il ne pourrait pas y avoir une solution intermédiaire qui pourrait être trouvée par rapport à ça? Voilà. On n'a pas les réponses précises par rapport à tout ça, mais en tout cas, ce qui nous semble le plus évident, c'est de prendre un peu de recul scientifique et technique par rapport à ces éléments-là, parce que là, aujourd'hui, ça n'a pas été fait, et on se retrouve dans des situations qui sont vraiment compliquées à gérer pour certaines entreprises.
Eh bien, merci Marc pour votre retour d'expérience.
Avec plaisir, merci à vous pour ces questions Maïa, et puis je pense que notre producteur de champignons Lou saura très bien illustrer ce que je viens de vous dire avec un cas très précis de ce qu'il fait chez lui.
Très bien, merci, au revoir.
Merci, au revoir.
Alors bonjour Emmanuel.
Bonjour.
Justement, vous allez pouvoir nous parler concrètement du cas bien particulier du champignon, puisque vous êtes productrice de champignons bio à Poyet en Bretagne, des champignons qu'on retrouve d'ailleurs en magasin à marque Lou, dans des barquettes. Alors, avez-vous trouvé des solutions pour troquer vos barquettes plastiques, justement ?
Oui, déjà, ce qui est important de savoir, c'est que les barquettes qu'on avait auparavant étaient en plastique, mais en RPET, donc c'est du PET qui est recyclable et recyclé. Donc on travaillait déjà sur le fait d'avoir des emballages qui soient recyclables et qui soient pas nocifs pour l'environnement.
C'est ce fameux plastique qui est recyclé
c'est
à l'infini, dont nous parlait Marc.
Exactement. Sachant que ça faisait quand même plusieurs années que on cherche des solutions, hein, on n'a pas attendu la loi pour trouver des solutions hors plastique. D'ailleurs, on avait commencé nous-mêmes avec des barquettes en bois avant de faire du plastique, sauf qu'on n'arrivait pas à sourcer, donc on était obligé d'arrêter et c'était très fragile, donc on avait beaucoup de casse et c'était aussi très très cher. Puisqu'on a une autre contrainte dans notre métier, c'est que nous, on souhaite avoir des fournisseurs qui sont proches de chez nous.
Oui, parce que vous êtes également très engagé dans tout ce qui est développement durable en général.
C'est ça, exactement. Donc le bois, en l'occurrence, on avait un fournisseur en France, en Sologne, et il y a très peu de fabricants, et donc on n'a pas pu continuer parce qu'il n'arrivait pas à produire suffisamment pour nous, et puis surtout, on avait beaucoup de problèmes de casse sur ce produit-là. Donc on était passé au RPET, mais en parallèle, on cherchait évidemment une solution pour bannir le plastique de nos barquettes. Donc on n'avait pas attendu la loi. Sauf que on a fait le premier pas, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, en effet, on a une barquette en carton, 100% recyclable et même home compostable. Mais il nous reste un élément sur notre barquette qu'on doit remplacer pour bannir définitivement le plastique, qui est le film plastique. Puisqu'au-dessus de notre barquette en carton, on a un film plastique qui protège le champignon, qui protège le produit, qui lui permet de respirer. Parce que le champignon rejette énormément d'eau, mais il rejette l'eau et il la reprend derrière, en fait.
D'accord. Alors, ce film plastique transparent, justement, y a-t-il des solutions envisageables aujourd'hui, biosourcées, qui nous permettraient de ne plus l'avoir, de le remplacer ?
Alors, on cherche. Aujourd'hui, il y a des films... Alors, il n'y a pas encore de films qui sont 100% biosourcés. Il y a des films qui sont compostables. Mais ces films-là sont pas autorisés par la loi, en l'occurrence, sauf s'il y a des décrets qui arrivent, mais pour l'instant, c'est pas le cas.
Alors pourquoi ils sont pas autorisés ? Parce qu'il y a encore des polymères dedans, je crois, qui sont pas 100% biosourcés.
Exactement. Ensuite, il y a un autre problème, de toute façon, qui malgré tout est complexe, c'est que demain, si on a quelque chose qui n'est pas du plastique, mais qui ressemble au plastique, le consommateur croira que c'est du plastique et ce sera très compliqué de lui dire que ça n'en est pas. Donc c'est aussi aujourd'hui notre problématique, c'est qu'on se dit si demain on trouve quelque chose pour remplacer notre film qui est aujourd'hui en plastique mais qui va ressembler exactement à du plastique, qui va avoir la même tête, enfin ça va être compliqué de dire. Alors bien sûr on peut le mettre sur l'étiquette, mais on a déjà suffisamment de choses à dire sur nos étiquettes. L'autre problématique, c'est que le consommateur, il veut voir le produit, parce que sinon il va acheter du vrac, quoi.
Justement, cette problématique du vrac, pourquoi les champignons sont vendus exclusivement en vrac depuis des années, pourquoi aujourd'hui ce n'est plus le cas et pourquoi vous n'êtes pas pour cette solution ?
Alors, déjà, il y a si on refait un tout petit peu l'histoire du champignon, il y a 30 ans, il y avait très peu de champignons frais en France. On mangeait du champignon en conserve exclusivement. Et puis, les Hollandais sont arrivés sur le marché, suivis des Polonais, et ces gens-là faisaient du vrac. Donc, ils ont mis du vrac sur le marché et personne ne s'est posé la question est-ce que c'est bien pour ce produit ou est-ce que c'est pas bien d'avoir du vrac. Il s'avère que le vrac, c'est pas grave si on est chez un primeur qui va vous servir et qui va mettre ça dans un petit sachet et où tout le monde ne va pas toucher le produit. Le vrac, c'est très grave, par contre, en grande distribution, parce que le champignon n'a pas d'épiderme. Donc, à partir du moment où il est touché, tout ce que vous avez sur les doigts, ça va rentrer à l'intérieur. Vous aurez beau le peler, le laver, c'est foutu, c'est une véritable éponge. Donc déjà, d'un point de vue microbio, c'est pas terrible. Deuxième problème, à partir du moment où il est touché, le champignon, il va s'ouvrir, il va noircir, il va être marqué. Il est plus du tout vendable, enfin en tout cas personne ne l'achète, et on se retrouve avec des taux de ce qu'on appelle des taux de casse en magasin, c'est-à-dire du gaspillage alimentaire de l'ordre de 30% sur un colis. Donc pour notre métier de producteur, c'est dramatique de se dire qu'on jette 30% des produits que nous, on cueille délicatement dans nos barquettes ou dans nos colis carton, quoi.
D'ailleurs, Emmanuel, vous parliez tout à l'heure de l'export. Alors, il est vrai qu'énormément de champignons frais sont encore importés de l'étranger. Et justement, quid de l'export concernant ces fameuses barquettes bleues qu'on voit souvent avec les champignons, puisque si aujourd'hui les producteurs français vont être contraints d'arrêter le plastique et les barquettes en plastique, seront-ils soumis à la même contrainte ?
Ah ben, j'espère que oui. Aujourd'hui, on n'a pas la confirmation, mais il semblerait que ce soit pareil pour eux. Ils vont pas pouvoir vendre sur le marché des produits. Enfin, j'espère, parce que là, sinon on va tuer les producteurs français et on va donner tous les droits aux producteurs étrangers, ce qui serait quand même un petit peu embêtant, puisqu'aujourd'hui, le consommateur, il cherche des produits locaux et de la production locale, quoi. Donc j'espère pas.
Alors, je crois que vous développez d'ailleurs d'autres champignonnières.
Oui, tout à fait. On a ouvert notre première champignonnière en 2015 et là, on en ouvre une autre à Landivy, dans les Pays de la Loire, dans le département de la Mayenne. Et on ouvrira une autre champignonnière au Puy-en-Velay, à côté du Puy-en-Velay, à Chasse-Puzac, en Auvergne. L'idée, c'est d'être au plus près de nos consommateurs. Moins le champignon voyage et mieux c'est, parce qu'il va être plus qualitatif et puis encore une fois, on va réduire l'empreinte carbone dans le transport. Donc demain, on a d'autres projets aussi dans les cartons. Donc l'idée, c'est vraiment d'avoir des champignonnières aux quatre coins de la France pour pouvoir être au plus près de nos clients et de nos consommateurs.
Emmanuel, pouvez-vous nous dire qu'à un point de vue économique, au niveau des investissements, de la réorganisation en interne, qu'est-ce que le fait de changer vos barquettes, de passer des barquettes plastiques à des barquettes carton, quelles conséquences cela a eu dans votre logistique quotidienne ?
Alors, passer d'une barquette en plastique à une barquette en carton, c'est pas uniquement compliqué au niveau du développement du produit, c'est aussi compliqué en interne parce que ça demande à se réorganiser et à investir. Nous, par exemple, sur la barquette en carton, il faut savoir qu'une barquette en carton, c'est 4 fois plus de volume qu'une barquette en plastique. Donc, ça veut dire déjà qu'on peut pas les transporter déjà formés, donc il faut les former sur place. Donc, il faut investir dans une machine pour former les barquettes en carton et les coller. Ensuite, donc pour cette machine, il faut former des gens pour faire fonctionner la machine. Il faut recruter des gens pour faire un atelier pour fabriquer ces barquettes. Ensuite, on s'est rendu compte que sur nos chariots sur lesquels on cueille le champignon, avant, on donnait des piles de barquettes à nos cueilleurs, des piles de barquettes en plastique qui dépilaient et puis qui remplissaient une à une. Aujourd'hui, en fait, on ne peut plus leur donner des piles de barquettes en carton sur leur chariot parce que, en fait, il n'y a pas assez de place sur le chariot. Donc on est obligé de pré-remplir les caisses avec les barquettes, donc ça demande aussi de l'organisation en interne et de la main d'œuvre puisqu'on a des gens qui manuellement mettent les barquettes, pré-remplissent les barquettes et les mettent dans des caisses pour les cueilleurs. Donc ça a impliqué quand même un gros changement dans la façon de fonctionner dans l'entreprise et dans l'organisation de l'entreprise, et puis un investissement qui n'est pas anodin hein, puisqu'il a fallu investir dans des machines pour former les barquettes.
Aujourd'hui, Emmanuel, si vous aviez un message à adresser à notre ministre de la Transition écologique, quel serait-il ?
Alors, si j'avais un message, déjà je lui dirais que sa loi, moi je la trouve bien, parce que c'est vrai que c'est bien de faire en sorte de réduire la consommation de plastique. Après, j'aurais bien aimé que déjà on soit mieux consulté, que nos contraintes soient plus prises en charge avant de lancer cette loi, parce que en fait on est un peu pris au dépourvu, on a très peu de temps pour se retourner, et puis sur des filières comme la nôtre, puisque nous on est producteurs de champignons, qui a très très peu de production en France, donc on connaît très mal les contraintes du produit, on a une interprofession qui est pas très forte, donc on se retrouve, on se sent un petit peu isolé. On ne se sent pas du tout écouté, et c'est vrai que il y a des filières qui sont plus importantes hein. On peut parler justement de la filière de la carotte, de l'endive. Alors ces gens-là, ils sont beaucoup plus forts parce qu'ils sont beaucoup plus gros en France, ils produisent beaucoup plus, donc ils seront certainement plus entendus. Nous sur le champignon, c'est quand même compliqué, et sachant que nous on monte deux autres champignonnières, qu'on investit en France, qu'on forme des gens en France pour faire revivre un métier,
Rappelez-nous combien vous avez créé d'emplois en France.
Donc aujourd'hui, on a créé 170 emplois. On s'apprête à en créer 150 dans la champignonnière des Pays de la Loire, et encore 150 dans la champignonnière qui se trouve au Puy-en-Velay. Donc c'est vrai que c'est des gros investissements. On est une entreprise familiale, on est des producteurs français, et on aurait bien aimé évidemment être plus entendu et avoir plus d'écoute de la part du gouvernement. Et aujourd'hui, c'est pas vraiment le cas, quoi.
Très bien, mais j'espère que Barbara Pompili vous entendra. Merci beaucoup, Emmanuel.
Merci.
Alors demain, n'y aura-t-il plus du tout de plastique dans nos emballages ? Le gouvernement va-t-il être à l'écoute de nos producteurs ? Nous en saurons plus en fin d'année, quand les décrets d'application seront votés. En tous les cas, merci d'avoir été à l'écoute de ce premier podcast, qui sera, nous l'espérons, le premier d'une longue série autour de l'actualité food et agro. À bientôt !